toutes et à tous et bienvenue dans la revue de presse chrétienne de Radio Grand Ciel. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un tour d'horizon évidemment non exhaustif des revues et médias chrétiens de ce mois d'octobre. Alors aujourd'hui, je suis toujours accompagnée de Simon, bonjour.
Bonjour.
Mais pas de Liliane qui ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui et que bien sûr nous saluons. Nous avons donc demandé à notre stagiaire Oregane de la remplacer au pied levé. Elle a relevé le défi. Bonjour Oregane.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors je vous le disais, un tour non exhaustif. Nous explorerons donc aujourd'hui famille chrétienne, panorama, Vatican News, le pèlerin ou encore la vie et sous trois angles comme d'habitude. Sociétal, culturel et bien sûr spirituel. C'est d'ailleurs avec la page spiritualité que je vous propose de débuter ce quart d'heure. Je ne vais citer qu'une seule revue, mais elle compte pour trois. Christus, la revue trimestrielle de spiritualité des jésuites, est sortie ce mois-ci. Il s'agit du numéro 268 sur le thème « Quand nous veillons ». Presque 130 pages très intéressantes, pointues mais accessibles. L'exigence est aussi ce qui fait que l'on aime Christus et ses propositions de réflexion et de cheminement approfondies. Pour vous éclairer sur le contenu de ce numéro, voici ce que nous dit l'équipe de rédaction dans sa présentation du thème choisi. Honorer la veille comme vigilance active, c'est parler d'une espérance vivante et permettre à la communauté des croyants d'incarner cette promesse dès aujourd'hui. Et si veiller demande de se mettre à distance des interactions incessantes, loin de séparer, ce mouvement rassemble car la veille dispose à la communion. Très belle présentation et donc un thème qui va être décliné par plusieurs auteurs, parmi eux Françoise Lecor, philosophe et ancienne rédactrice en chef de la revue Études, qui nous parle de la veille comme d'un temps d'exception, Étienne Grieux, jésuite et président du Centre Sèvres, qui nous invite à réfléchir sur le veilleur, un solitaire en communion, mais aussi Jean-Pierre Longeat, moine bénédictin, président de l'Alliance intermonastique, qui signe un article intitulé « Accueillir celui qui vient ». Mais comment l'accueillir dans le monde troublé d'aujourd'hui ? La revue n'oublie pas le contexte de la pandémie et vous offre un regard d'espérance sur des thématiques, des problématiques actuelles. C'est ce à quoi s'emploie Christian Sauré dans son article « Veiller dans la foi aujourd'hui », lui qui est accompagnateur spirituel en équipe du MCC, qui est le mouvement chrétien pour les cadres et dirigeants. Un cheminement très complet, donc très vivant, sur le thème de la veille. Vraiment, cette lecture, c'est un ressourcement. Je vous lis encore un extrait de l'article, cette fois signé Étienne Grieux. « Être veilleur débouche sur un certain mode de présence au monde et à ses habitants, fait d'abord de considération. Tous sont regardés comme des veilleurs en puissance et personne n'est déclaré définitivement inapte à l'espérance. À force de guetter, il est devenu impossible aux veilleurs d'enfermer ceux qu'ils voient dans les étroitesses qu'on peut toujours leur reconnaître. Son regard habitué à la ténèbre sait y scruter la lumière infime qui y persiste et il a appris à attendre le jour même quand c'est la nuit noire. Le veilleur regarde ses frères et sœurs comme il guette l'aurore. » Voilà des extraits de Christus, de ce Christus essentiel du mois d'octobre 2020. Notez que vous y retrouvez également trois autres rubriques plus courtes. Pratiques et récits consacrés pour cette fois au dernier repas de Jésus, éclairé par la théologienne Anne-Marie Petitjean. Également recherches ignatiennes avec un très bon article sur le discernement par Marc Rotzert, chercheur à Oxford. Et puis « Lire et méditer », c'est une sélection d'ouvrages, notamment ceux de Jacqueline Kellen, Daniel Marguerat et Marie-Aimée Manchon. Un puits de spiritualité que ce Christus qui vaut 14 euros pour, je vous le rappelle, 130 pages. Plus d'informations sur www.revue-christus.com. Et je profite de l'occasion pour rappeler que la spiritualité ignatienne a son émission sur Radio Grand Ciel, Foi Chemin de Liberté, présentée tour à tour par Sœur Michèle Marchand du prieuré Saint-Thomas d'Épernon, Elisabeth Perron et Raymond Richard, à retrouver donc chaque semaine le lundi à 10h15, le mercredi à 16h30 et le jeudi à 6h45 et puis bien sûr sur notre site internet radiograndciel.fr. Et bien voilà pour le le volet spirituel de cette revue de presse, nous passons au sujet de société qu'ont retenu vos journaux chrétiens avec Simon.
Dans tous vos journaux chrétiens, on revient bien entendu sur l'assassinat de Samuel Paty, condamnation unanime car c'est avant tout l'horreur d'un tel acte qui s'exprime, alors que quelques jours plus tôt, les médias catholiques s'enthousiasmaient pour la nouvelle encyclique papale « Tous frères ». Après l'indignation vient le temps du questionnement. La plupart des journaux s'y essaient, avec plus ou moins de réussite, à l'image de familles chrétiennes qui signent un papier les quatre leçons à tirer de l'assassinat de Samuel Paty. Article qui ne parvient pas vraiment à convaincre les internautes à lire sur le site de Famille Chrétienne les commentaires pour le moins désobligeants à l'égard de l'auteur de cet article. Mais revenons pour commencer au soutien. D'abord donc avec le site Vatican News qui rappelle l'unanimité des responsables religieux à condamner cet acte barbare. L'Église de France, par la voix de nombreux évêques, mais aussi la sphère protestante, des responsables de l'Église orthodoxe, et encore de nombreux imams et rabbins. L'édito de Pèlerin Magazine est particulièrement poignant. Édito intitulé « La fin du compromis » signé par Samuel Liévin. En voici un extrait. Le pape François avait-il donc tout faux ? Son appel à la fraternité universelle, dont notre hebdo faisait sa couverture il y a 2 semaines, s'est-il déjà fracassé contre le mur de la barbarie ? À quoi bon se mentir ? Nous avons bel et bien douté, vacillé, désespéré en apprenant vendredi 16 octobre l'assassinat par décapitation de Samuel Paty, professeur d'histoire-géo en collège dans la France de 2020. Dans « Témoignage chrétien », l'édito signé par Anthony Favier va encore plus loin, puisqu'il explique, je cite, « À l'occasion de l'ouverture du procès des attentats meurtriers contre les membres de la rédaction de Charlie Hebdo et le personnel et les clients de l'hypercachère, le journal republiait en une les caricatures qui avaient déchaîné ces crimes. Nous publions cette une pour manifester notre solidarité et notre soutien sans faille à la liberté d'expression alors que le fanatisme et l'intolérance ont coûté la vie au professeur Samuel Paty. Tant pour l'interrogation également, comme je vous disais en introduction, et parmi toutes les pistes de réflexion qui sont proposées, une a retenu l'attention de nombreux journaux, à commencer par La Croix, Pèlerin, mais aussi Le Monde, ou le site du Figaro. Il s'agit d'un petit livre sorti juste avant l'assassinat de Samuel Paty, petit livre intitulé « Du fanatisme quand la religion est malade » aux éditions du Cerf. Son auteur, le père Adrien Candiard, est dominicain, vivant au couvent du Caire et membre de l'Institut d'études orientales. Dans ce livre, Adrien Candiard tente de répondre à cette question qui taraude tous les croyants, pourquoi la foi en Dieu qui devrait nous rendre meilleurs produit-elle parfois de la violence ? On explique souvent le fanatisme en faisant appel à la psychologie. Ils sont fous, dit le père Candiard dans Pèlerin Magazine, ou à des causes sociologiques comme la pauvreté ou le manque d'éducation, mais on n'évoque jamais en revanche la dimension proprement religieuse du fanatisme, encouragée par un certain nombre de théologies. Au fond, le fanatisme, c'est une absence de Dieu, autrement dit de l'idolâtrie, mettre à la place de Dieu quelque chose qui n'est pas Dieu. En effet, il est très tentant de remplacer Dieu par des objets comme la Bible, le culte ou les commandements divins que l'on maîtrise, que l'on pourra utiliser d'une manière qui nous arrange. Cela produit du fanatisme. À l'opposé, adorer Dieu, le mettre à sa place, nous vaccine contre le fanatisme parce que Dieu est toujours plus grand que nous. Le site Figaro Vox se fait également l'écho de cet ouvrage et pose la question de manière directe. L'islam et le Coran n'offrent-ils pas davantage de prise à une lecture fanatique que les autres religions ? Ce à quoi le père Candiard répond, je cite, « Les textes et surtout l'imaginaire de l'islam des origines me paraissent effectivement offrir plus de disponibilité à un usage violent que les textes et l'imaginaire du christianisme primitif. » Il n'en est que plus frappant de constater que dans l'histoire, des chrétiens ont pu s'en réclamer pour justifier des comportements fanatiques violents, à commencer par les guerres de religion du XVIe siècle européen d'une férocité inouïe. Cela nous montre qu'il y a une grande naïveté à penser que les comportements religieux ne sont que les conséquences mécaniques des textes fondateurs, c'est un peu plus complexe et un peu plus intéressant. » Fin de citation. Vous l'aurez compris, parmi toutes les réflexions qui ont été publiées suite à l'odieux attentat contre Samuel Paty, ce livre du père Adrien Candiard, « Du fanatisme quand la religion est malade » paru aux éditions du Cerf, propose quelque chose de neuf et d'extrêmement pertinent.
Eh bien, merci beaucoup, Simon. Que de sujets sérieux dans cette émission que nous allons refermer avec la partie culturelle peut-être plus légère, assurée par Aurégan qui a pioché dans Famille chrétienne et Panorama.
Alors, je vais commencer par vous présenter le coup de cœur littéraire de la revue Famille chrétienne. Il s'agit d'un livre santé, « Méfions-nous des charlatans », écrit par Georges Fenech. Le domaine de la santé est devenu le point d'entrée privilégié des gourous thérapeutiques, alerte l'auteur. Ce dernier fait une liste des pratiques dont il faut se méfier et en expose les dangers potentiels ou avérés. Mais ses propos ne sont pas dits dans le vent puisqu'il s'appuie sur de nombreux témoignages. Elisabeth Caillemer, qui a écrit l'article, nous prévient « Certaines mentions vont vous surprendre ». Côté cinéma, Édouard Hubert nous présente plusieurs films, dont « Adieu les cons ». C'est l'histoire de Suze, 43 ans, qui apprend qu'elle est condamnée. Elle part donc à la recherche de l'enfant qu'elle a eu à 15 ans et qu'elle a dû abandonner. Sa quête la pousse à rencontrer un geek quadragénaire en plein burn-out et un archiviste aveugle à l'enthousiasme insubmersible. Le journaliste écrit « Plus que les gags enchaînés continuellement, c'est la gravité du regard et de la tendresse des attitudes qui font le prix de ce film, drôle à pleurer et lacrymal à se tordre. » L'humour de Dupontel, réalisateur du film, s'allie à de fortes émotions dues à la rencontre bouleversante entre une mère au jour compté qui cherche son enfant, le geek jugé trop vieux pour son poste et un aveugle plein de vie. Le film vous sera présenté plus en détail dans l'émission Cinémag, vendredi prochain à 17h45 sur les ondes de Radio Grand Ciel. Et pour celles et ceux qui veulent regarder un DVD en famille, Famille Chrétienne vous propose L'ombre de Staline, réalisé par Agnieszka Holland avec James Norton et Peter Sarsgaard. Voici le pitch. Après avoir interviewé Hitler en 1933, Gareth Jones, jeune reporter gallois, se lance le défi d'interroger Staline. À Moscou, il perd ses illusions sur la Russie, minée par la propagande. Un voyage clandestin en Ukraine lui révèle une terrible réalité. Le journaliste Édouard Hubert écrit « En affrontant courageusement l'histoire cachée de l'Holodomor, la famine organisée par Staline qui a tué des millions d'Ukrainiens entre 1932 et 1933, Agnieszka Holland réussit à en faire un thriller passionnant qui permet de soutenir l'atroce vérité sans rien ôter à son horreur. » Un film presque coup de cœur pour le journaliste. Passons maintenant à la revue Panorama, et c'est le livre Incroyable chrétien qui a retenu mon attention. Ce livre a été écrit par le journaliste Dominique Boulge. Sophie Peloux-Prayer, la journaliste, nous pose directement la question. Saviez-vous que Médecins sans frontières a été créé par des chrétiens ? Je cite « Dans un monde qui pointe inlassablement les failles et les malheurs de l'humanité, cet ouvrage encourage le lecteur à regarder le monde avec bienveillance. » À vous donc de lire ces 1001 portraits d'incroyables chrétiens et chrétiennes. Un autre livre nous est présenté par la revue, c'est Tango 2, écrit par Agathe de Mignac. Il s'agit du témoignage de cette maman pas comme les autres. « La vie est plus belle que la prudence », ont écrit Agathe et Nicolas de Mignac sur leur faire part de naissance de leur troisième enfant. Cet enfant est atteint de la maladie Tango 2, une maladie génétique rarissime. Et pourtant, cette maladie touche 3 enfants sur 5 de la famille de Mignac. Dans ce livre, Agathe de Mignac livre son témoignage de maman. Florence Châtel, la journaliste, écrit « C'est la déclaration d'amour d'une maman émondée par la fragilité de ses enfants. »
Merci pour ces belles propositions culturelles, Aurégan. Merci également à Simon et à nos auditeurs de nous être fidèles. Rendez-vous désormais dans 2 semaines avec vos médias chrétiens qu'il faut soutenir. Et vous pouvez d'ici là réécouter cette émission sur notre site www.radiograndciel.fr.